LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Attention, certains des propos qui vont suivre peuvent heurter les auditeurs les plus sensibles.
Salut, ça va ?
Ça va, ça va.
Ouais, vas-y, tu peux venir avec nous.
Bonjour. Vas-y, t'as une place, c'est là. Bonjour. Installe-toi.
Qu'est-ce qu'on fait, nous ?
Comme d'habitude.
Hein. Ouais. Démarcation sur le côté.
Ouais, ouais, ouais.
Alors moi, j'ai deux salles. Une salle côté femme et une salle côté homme. Deux salles, deux ambiances. Comme je dis souvent, c'est pas les mêmes conversations de chaque côté. Côté homme, ça va être un peu plus mécanique. Ah, désolé.
Je décroche.
Pierre Coiffure, bonjour. Bonjour. Oui.
Être un bonhomme.
D'accord. Dans combien de temps ?
Une série documentaire de Romain de Bec de Lièvre et David Jakubowiez.
Ah, si c'est un quart, ouais, c'est bon, ça le fait.
Épisode 1. Donner forme aux hommes.
Avant, on disait qu'un homme viril, c'est quelqu'un qui prenait pas soin de lui, justement. Le côté masculin, brusque. Et contrairement, maintenant, la barbe, ça demande énormément d'entretien. Donc les mecs sont devenus vachement féminins, au contraire. Moi, j'ai eu un passage où je l'ai eu assez longue. Elle m'arrivait bien en dessous au niveau du cou. Ben, ma femme me disait, tu passes plus de temps dans la salle de bain que moi. Et c'était vrai, ouais. C'était mon côté féminin, du coup je suis ressorti de là et j'ai coupé un peu plus court. Hein, c'est vrai, la barbe, c'est de l'entretien. Hein.
Ah oui, oui, tous les jours. Hein. Tous les jours, produits, crème, huile, tout ce qu'il faut.
Sinon, c'est vrai que ça fait vite sale une barbe quand elle n'est pas entretenue.
Et c'est quoi comme entretien du coup ?
À faire. Se laver la barbe avec un savon spécial. Et ensuite, une petite brosse en poil de sanglier. Et ensuite, une bonne huile. De l'huile pour hydrater le poil. Le poil de barbe est très très sec.
Mais c'est ça, après c'est pas grave si la barbe est trop sèche.
Puis les femmes, elles aiment pas trop quand ça pique. Hein. Elles aiment plus quand c'est un peu plus doux, quand même. Bon, et toi, criade ce soir aussi ?
Non. Non, non.
T'es sage, toi ?
Oui, bah, je me suis levé à 4h ce matin. Ouais.
La déco, ici, c'est vous qui l'avez faite ?
Ouais, ouais, ouais. Le cadre, là, c'est là où il y a mes arrière-grands-parents, ça, qui étaient dans leur premier salon de coiffure. Et là, c'est mon grand-père qui rasait son père à l'âge de 15 ou 16 ans. Et ça, c'est ma grand-mère. Voilà. Et j'ai appris le métier dans ce magasin-là. Donc c'est vraiment une histoire de famille chez moi. Mmh. Et ça va s'arrêter là parce que j'ai pas mes fils qui vont prendre la coiffure.
Ah bon ?
Non, fini. On s'arrête là. Il n'y aura pas de cinquième génération.
Les hommes sont historiquement plutôt un impensé de la société. Ils sont le générique, ils sont la normalité.
Daisy Le Tourneur, autrice de « On n'est pas mec ».
Être un homme, c'est normal, et être une femme, c'est particulier, ça porte un stigmate. L'humain générique sans stigmate particulier, c'est un homme, et la femme, c'est une déviation du modèle. De même façon que dans nos sociétés, on conçoit encore trop largement que être blanc, c'est normal et être racisé, c'est dévier de cette normalité. Il y a tout un tas de choses comme ça. Être valide, c'est normal. Être handicapé, c'est stigmatisé, etc. Et ce que font les études de masculinité, c'est de retourner le projecteur vers les hommes et vers le groupe social homme et de le considérer comme un groupe particulier avec ses fonctionnements qui sont bien à lui et qui sont pas universels, mais qui sont une norme parmi d'autres. Et en fait, se retrouver de ce côté-là du projecteur, c'est pas forcément une position confortable. En tant que femme trans, en tant que lesbienne, je sais ce que c'est que d'être stigmatisée et d'être l'objet d'études, etc. Et c'est pas forcément quelque chose qui vous met à l'aise. Mais c'est, je pense, ce qui rend tout le travail sur les masculinités d'autant plus nécessaire et important. Donner forme aux hommes, donner forme au corps masculin à travers l'étude des masculinités, ça permet de le visibiliser, de l'étudier et aussi d'avoir des discussions qui finalement sont concrètes là où généralement elles sont plutôt idéalisées. Ce serait que je dis que les masculinités sont un impensé. Il y a quand même évidemment tout un discours sur les hommes qui existe depuis longtemps, mais qui généralement est plutôt un discours viriliste, un discours qui est totalement basé sur en fait un idéal masculin qu'on peut appeler masculinité hégémonique. Et l'idée des études de masculinité, c'est de plutôt que de s'intéresser à cet idéal et de faire comme si il était atteignable ou même qu'il était souhaitable de l'atteindre, on va déjà se poser la question de comment les hommes sont concrètement, quelle est leur façon d'habiter leur corps, quelle est leur façon d'interagir en société comment ils se tiennent, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils font aux femmes, qu'est-ce qu'ils font à notre société.
Les injonctions masculines, comme elles proviennent des hommes, elles ne sont pas remises en cause parce que les hommes ne remettent pas en cause eux-mêmes les injonctions masculines envers les autres hommes, parce que ça voudrait dire remettre en cause les injonctions masculines personnelles, mais aussi celles de ses grands-parents, de ses parents, enfin des gens de sa famille, ou voire même de ses référents culturels. Et ça n'intéresse pas trop, moi je trouve, j'ai l'impression que ça n'intéresse pas trop les hommes de réfléchir à ça, voire même d'en discuter entre nous, au fond.
Luz, auteur de bande dessinée.
Les hommes un peu alpha, ils aiment bien être des bonhommes. Et moi, c'est ce que j'ai rencontré, en fait, dans ma vie. C'est le monde des bonhommes. Et moi, j'étais un gamin, je faisais des petits bonhommes. Je dessinais les gros bonhommes qu'il y avait dans ma famille et qui avaient du mal à se reconnaître en tant que bonhomme. Mais comme les dessins faisaient rire un petit peu les différentes strates de ma famille, c'est-à-dire à la fois les oncles, les tantes, les femmes aussi, et les enfants aussi, du coup, ils étaient obligés de dire « Ouais, c'est peut-être un petit peu moins le bonhomme que t'as dessiné. »
Si on essaie de dessiner un homme, Luz, par exemple, qu'est-ce qui vous viendrait comme ça ?
Alors, ce que je vois à peu près de l'homme, tel qu'on demande à l'homme d'être, rétention d'émotion. Donc, sourcils un peu fermés, bon, le nez, peu importe. Un truc un peu sévère, c'est-à-dire, il faut montrer quelque chose de monolithique, et aussi y compris dans le sourire ou dans la posture des lèvres. Donc là, elles sont un petit peu droites, mais elles sont fermées par le bas. Les cheveux, s'il a beaucoup de testostérone, du coup, il est chauve. Mais comme c'est pas cool d'être chauve, ça peut être cool d'être chauve, mais c'est pas cool d'être chauve dans l'image qu'on donne de l'homme dans les représentations culturelles, sauf si vous êtes footballeur. Donc du coup, je vais lui mettre quand même un peu de cheveux. On va dire qu'il a un cou assez installé. Après, a priori, plutôt muscles, le muscle chez l'homme, c'est vraiment le biceps. C'est vraiment ça. C'est ça qu'on travaille. Et donc, il faut que le muscle soit saillant. Il faut la démonstration de la force, de la puissance. Mais le t-shirt, parce que le t-shirt, c'est très bien pour montrer les muscles. Position des mains un peu fermée comme ça. Il y a des gens qui, par exemple, quand ils sont à la radio, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, vous parlez, et puis hop, ils mettent le poing là, comme ça. Et le poing fermé est une marque d'intensité physique qui est inconsciemment quelque chose que les hommes font très très souvent. Voilà, très comme ça. La posture masculine, c'est-à-dire la posture masculine dans ce que ça a de mythique, dans ça d'expression du mythe de la virilité, c'est très caricatural. Et ça me donne vraiment envie de le dessiner. Parce qu'il y a un truc, c'est qu'on parle souvent des représentations de la femme, l'objectivation de la femme dans les publicités. Mais on oublie un petit peu l'objectivation des hommes dans la publicité. Je pense qu'il y a une espèce de construction du masculin qui rentre complètement dans le mythe. C'est-à-dire, on voit, à ma connaissance, je n'ai jamais vu, mais jamais vu, une publicité pour les déodorants, le rasage, etc., avec un type qui a du bidou. Où sont les gens qui ont du bidou, quoi ? Où sont-ils dans la représentation publicitaire ? Là, on ne les voit pas. En tout cas, sur les choses qui ont trait au corps, en tout cas. Le corps masculin dans les représentations culturelles et publicitaires, donc faites pour qu'on l'on consomme, pour que nous, hommes, on se sente concernés, ça ne nous ressemble pas. Ça ressemble à des hommes qui existent peu, en fait. Ça ressemble à des hommes qui existent dans des films. Ça paraît super bateau de dire ça, mais on oublie de le dire pour les hommes. C'est encore nulle part, je trouve.
Allez, Alexis, vas-y.
Qu'est-ce qu'on fait ? Dégradé,
ouais.
Sur les côtés, mais bien court.
Pas rasé.
Aussi.
Presque,
oui.
Ouais. Raser rasoir ou raser tondeuse ?
Raser rasoir,
ouais.
Ça me va. Et après, désépaissir le dessus et bien le raccourcir aussi.
Ok.
Et quand il pousse après, c'est...
Ouais.
Le matin, j'ai les pieds.
C'est jeune, hein.
Ouais.
Bon alors, la vie en Espagne,
ça va ? C'est bien.
Ouais,
ça va. C'est un autre rythme qu'ici, mais ça va.
C'est chaud ?
Non.
Non, ça va.
Non, on commence à 15h, donc... c'est un autre rythme.
À 15h, les cours ?
Oui.
Ouais. Tu fais quoi le matin ? Tu as bossé ?
Le matin, alors jusqu'à... Là, je me suis motivé, parce qu'au début, là, les premières semaines, c'était compliqué de se lever. Donc là, ça a été. On a pris l'abonnement à la salle de sport. Tous les matins à 6h30, on est debout. De 7h à 8h, c'est le sport.
On dirait vraiment l'usine. Puis certains pourraient dire... quel plaisir tu trouves à ça. Alors que moi, j'arrive dans une salle, waouh, je suis fasciné, j'ai envie d'y aller, quoi.
Guillaume Vallet.
Je reconnais plein de trucs, là.
Professeur d'économie, pratiquant de la musculation.
On voit qu'il y a, je dirais, des postes de travail. On fonctionne en îlot. Vous avez des espaces qui sont plus dédiés au cardio, des espaces qui sont beaucoup plus liés aux machines, des espaces qui sont liés à l'utilisation des poids bruts, c'est-à-dire des barres ou des haltères. Et puis, on voit même un espace pour les sacs de frappe, les sports de combat. Donc, voilà, tout est organisé en fonction de ce qu'on veut faire. On pourrait même dire en fonction de ce qu'on veut usiner, en fait. Voilà.
Vous, c'est quoi que vous pratiquez, du coup, en salle, particulièrement, comme machine ?
Moi, j'aime bien m'entraîner avec des poids bruts, c'est-à-dire avec des barres ou des haltères. Alors, c'est un peu ma culture historique du bodybuilding. On a un peu cet imaginaire. J'aime beaucoup aussi la sensation parce que je pense que ça donne un meilleur travail polyarticulaire. En fait, quand on utilise une machine, on va fabriquer du muscle, mais on va isoler le muscle. Un seul muscle va travailler, c'est fait pour ça. Par contre, quand on utilise des barres ou des poids, il y a beaucoup plus de muscles qui sont sollicités. Vous faites les pectoraux avec des haltères, vous sollicitez vos pectoraux, mais aussi vos triceps, vos deltoïdes, vos abdos pour gainer, etc. Donc moi, j'aime beaucoup m'entraîner avec des poids de ce type-là. Ouais. Et moins les machines. J'en fais, mais moins les machines. Les îlots fonctionnent par muscles, justement pour donner un petit peu une idée de ce sur quoi on va pouvoir travailler à la salle, mais ils fonctionnent aussi, de fait, beaucoup par genre, en fait. Si vous regardez bien, vous allez voir que souvent aux espaces cardio, aux espaces dédiés aux jambes, vous allez trouver beaucoup plus de femmes. Et dans les espaces liés au poids brut, au sac de frappe aussi en particulier, vous allez avoir beaucoup plus d'hommes. En fait, c'est là où se situe le cœur de la masculinité, d'une certaine manière. C'est là où on va trouver les bandes développées couchées, c'est là où on va trouver aussi beaucoup de miroirs. Voilà, ça c'est important aussi dans une salle pour pouvoir se corriger soi-même, mais aussi pour pouvoir discrètement regarder ce que les autres font, comment ils sont musclés, se motiver à partir de ça. C'est aussi un élément central de l'organisation de la salle. Ouais.
Qui va au-delà du narcissisme ?
Oui, ça va au-delà du narcissisme pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une vraie fonction de correction des postures. C'est utile d'avoir des miroirs. Et puis, Narcisse, il se regardait dans l'eau, mais parce qu'il s'admirait. Souvent, les bodybuilders, ils ne s'aiment pas, quoi. Ils ont toujours envie de plus. Ils ne sont pas satisfaits de leur image. Donc, il y a vraiment une logique de se dire, je regarde ce que font les autres en même temps que ce que je fais, mais pour essayer de me dire, je ne suis pas satisfait, quoi. Et c'est ça qui crée aussi la motivation. Donc, c'est plus... voilà, une logique sociale que purement narcissique à travers les miroirs. Ouais. Et on voit que, à travers l'attitude des personnes, la souffrance qui est liée au travail, mais une souffrance qui est bienvenue, une souffrance qui est recherchée, quoi. C'est ça, les gens sont là pour, comme on dit, pour en chier, quoi. Ça, c'est visible à travers leur attitude faciale, leur mouvement du corps, ouais. C'est un lieu qui, là, encore une fois, correspond à la philosophie du capitalisme et au sens du travail. Le travail, c'est une voie de salut, ici-bas, quoi. C'est par la souffrance qu'on va se transformer et qu'on va redevenir quelqu'un, quoi. Et ça, le muscle, ici, et par le travail qu'on va pouvoir accomplir à travers lui, rentre pleinement dans cette logique, en fait. C'est le dépassement de soi, c'est la sensation d'exister ici-bas, de faire quelque chose de sa vie et, quelque part, de se transformer aussi.
Et le truc où on tire là, avec les poids, ça c'est pour travailler quoi ?
C'est le dos, le dos.
C'est le dos, ça.
Ouais, les dorsaux. Celui qui est assis, hein. Celui qui est debout, c'est les pectoraux en fait.
Alors le corps dans l'entreprise, en fait, il est indissociable de la question du sport. Le sport, en tout cas de ce que j'ai pu apercevoir dans toutes les enquêtes que j'ai faites, le sport était souvent mobilisé dans les entreprises. Parce que à la fois c'est un symbole, mais c'est aussi un concentré de valeurs sur la solidarité, la compétition, le dépassement de soi aussi et le courage. Et c'est vrai que souvent les entreprises sponsorisent des événements sportifs ou sponsorisent des sportifs justement pour donner un exemple de ce que c'est l'abnégation. L'abnégation dans le sport, mais aussi dans le travail.
Audrey Voile, sociologue du travail.
Et donc la question du corps, elle est différente effectivement en fonction du métier qu'on exerce, mais aussi en fonction de sa classe sociale. Dans les métiers ouvriers que j'ai pu étudier, c'était vraiment un rapport au corps très typique des milieux ouvriers, c'est-à-dire où on va s'engager physiquement et corporellement dans son métier, parce que c'est ce qu'on attend de ces hommes-là au travail. C'est aussi une manière de montrer son engagement au travail que de s'engager à corps perdu dans l'activité, même si j'ai remarqué que beaucoup d'ouvriers avaient tout à fait conscience du fait que leur corps ne pouvait pas supporter ces charges de travail toute une vie, et donc il y avait quand même des réflexes de protection sanitaire qui étaient mis en place. Alors que chez les cadres, c'était vraiment un rapport au corps beaucoup plus ascétique, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du contrôle de soi et de son corps, avec à la fois le port du costume de cravate. Les vêtements sont très importants aussi dans le dispositif de mise en scène de sa masculinité, mais aussi quelque chose de l'ordre d'un corps fin, d'un corps mince, qui montre qu'on est capable de se maîtriser, de maîtriser son rapport au corps et aussi son mental. Et ça, c'était assez frappant de voir que beaucoup de cadres, en fait, se retrouvaient le midi au Club Med Gym, à côté du bureau, pour justement à la fois montrer qu'on a un rapport au corps mesuré, et en tout cas réfléchi, et puis qui participaient aussi d'une certaine forme de démonstration de puissance, quelque part.
On voit qu'il y a quand même cette hiérarchie des poids qui reste dans l'univers masculin, parce que c'est à partir de la question « combien tu soulèves ?» qu'on va finalement classer un petit peu les individus. Le fait de soulever lourd permet aussi finalement de donner droit, je dirais, à certains privilèges comme crier un peu plus fort que les autres, se faire voir, lâcher les poids par terre. Enfin voilà, ce sont des comportements qui sont valorisés dans une salle, mais qui sont un petit peu, je dirais, le privilège des plus musclés, des plus forts, de ceux qui sont capables de démontrer finalement leur masculinité. Alors, historiquement, le bodybuilding s'est quand même construit sur l'idée qu'un corps musclé attire les femmes et hiérarchise les hommes entre eux, parce que les plus forts, en tout cas ceux qui affichent le plus de muscles, seront les plus respectés. Donc, des individus qui se sentent fragiles à la fin de leur adolescence, au début de leur vie adulte, par leur corps, vont chercher à arriver dans une salle et à se mesurer à d'autres hommes. Donc, c'est pas toujours évident, parce que justement, On a cette sensation de faiblesse relative, on pourrait dire, et il y a parfois des affiches où c'est marqué « Enter if you dare », voilà, est-ce que tu oseras rentrer pour construire ton corps ? Donc c'est une première étape qui est franchie et qui, là, pour l'individu novice, va être tout de suite visible par le fait que, dans la salle, comme on dit, il y a des gros, quoi. Il y a des physiques qui en imposent. Donc, on va retrouver certains privilèges dans les salles où les plus musclés, les plus anciens vont avoir accès aux bancs de musculation les plus valorisés, vont avoir finalement un espace au sein du vestiaire où ils vont parler un peu plus fort que les autres, par exemple. En général, idem au moment de l'entraînement. Seuls eux peuvent se permettre certains cris, par exemple, face à la difficulté de l'entraînement, hein, bien sûr, mais pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Il y a une logique un petit peu, comme on pourrait le dire, animale, au sens où il y a une compétition pour le territoire, d'une certaine manière. C'est un territoire qui m'appartient. Ici, j'ai fait mes preuves. Et toi, qui es nouveau, il va falloir aussi que tu rentres dans le jeu.
Les corps masculins se mettent en scène, alors à la fois dans le travail qu'on fait si on fait un travail physique, mais je pense aux réunions de cadres où on a l'impression qu'il ne se passe rien en apparence, et en fait il se passe beaucoup de choses quand on observe une réunion de travail. Déjà quand on observe qui prend la parole et combien de temps les hommes prennent la parole, on se rend compte que majoritairement ils occupent l'espace d'une manière vocale, à la fois parce qu'ils monopolisent la parole, mais aussi parce que vocalement ils ont une voix qui est plus forte. Souvent, ils vont couper la parole aux femmes aussi. On observe qu'ils occupent l'espace aussi corporellement, c'est-à-dire qu'ils se lèvent beaucoup plus de leur siège pour faire le tour de la salle. Donc, c'est une forme d'imposition aussi d'un point de vue physique. Et en fait, il y a plusieurs enquêtes sociologiques qui se sont attelées à montrer que les hommes ont tendance à maximiser leur occupation de l'espace, contrairement aux femmes qui vont avoir tendance à la restreindre. Et c'est vrai que moi, j'ai pu l'observer. En fait, dans les entrepôts, les femmes, elles sont souvent sur leur poste de travail, et leur trajet, c'est poste de travail sanitaire. C'est le seul trajet qu'elles font. Alors que les hommes vont avoir tendance à aller serrer la main à leurs collègues, à faire le tour, etc., boire un café. Donc il y a vraiment une maximisation de l'espace d'un point de vue juste géographique, mais aussi une maximisation d'un point de vue sonore, parce qu'ils parlent beaucoup et on les entend beaucoup.
Écoutez, s'il vous plaît, vous n'allez pas du bois, je vous le dis, ne vous énervez pas. Ne vous agacez pas, continuez votre jeu. Vous êtes rugueux, comme il le faut.
Vestiaire de l'équipe de football.
Vaillant, les gars.
FC Mass Sainte-Puel.
Plus on va tenir le score, plus ils vont s'énerver, plus ils vont péter des plombs, plus ils vont faire des fautes, plus ils vont être. Répondez pas. Même les petits accros comme ça, quand on vous cherche, on vous fait des sourires, tout ça. Vous répondez même pas, les gars, vous les ignorez. C'est eux qui se chient à la culotte, là, d'accord ? Là, on va voir les vrais guerriers.
Mais gardez ce bloc, gardez ce bloc. Et imposer, les gars, mettez les coudes. Ils vont bouffer les coudes, ils vont en bouffer un, deux, et après ils vont se calmer. Eux, c'est ce qu'ils font, ils vous mettent les coudes dans la gueule. Faites pareil, les gars, mettez les coudes dans la gueule.
Et on s'excuse, on le sait qu'on a fait mal, on s'excuse, c'est pas grave, les gars. Ça arrive de faire mal, d'accord ? C'est comme ça, c'est le foot, c'est le sport de contact.
À rat de terre, le casque. Ouais, ouais. Le gars, il fait 2 mètres, les gars. 2 mètres et vous faites 1m50. Ouais, donc.
Allez, les gars, allez. On repart comme ça. Allez.
Merci, on a le vent aussi, je crois.
Compte tenu de ma taille et de la timidité que j'avais, le football, comment dire ça, m'a décomplexé. Grâce au football, j'ai bien été accepté au collège. Et les élèves de première et de terminale m'ont tout de suite adopté, m'ont donné un prénom, Pichoun, que je trimballe encore maintenant. Et j'ai évité le bizutage. À l'époque, la moyenne, ça devait être 1m72, 75. Donc, quand je feintais un type de 1m75, j'avais l'impression que j'avais feinté beaucoup.
Francis Vigourou, 83 ans, retraité et footballeur amateur.
Si, j'étais complexé. Et bien sûr que vis-à-vis de certains qui étaient grands, qui étaient beaux, qui étaient riches, j'avais un complexe. J'étais petit, j'étais pas bien beau et j'étais pas riche. Quelquefois, je voulais bien parler à une fille, mais si elle mesurait 5 cm de plus que moi, j'étais bloqué, quoi. Puis alors voilà, on arrive au gros sujet, si vous voulez le savoir, là, celui-là, la question qui me réveille, là. C'est que je suis sorti avec une... Elle est sortie plutôt avec moi. Parce que moi, avec mon 1m63, Et elle, avec son 1m72, elle était mannequin pour un grand magasin de Toulouse de vêtements. Elle était belle comme tout. Je me demandais comment je pouvais sortir avec elle. Quoi. Et donc j'étais bien quand j'étais avec elle, et j'étais mal à l'aise quand il y avait d'autres mondes. Quoi. Voilà, et donc ça, j'aurais pu l'aimer, mais en fait je ne l'ai pas aimé à cause de ce complexe. Pour moi, ça a été restrictif. Ma taille, c'était rédhibitoire, je ne pouvais pas... Elle a voulu se marier avec moi. Et un jour, elle m'a dit, j'aimerais avoir un enfant. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de... J'ai tout coupé. Et parce que je me disais, bon, c'est bien, c'est sympa, tout ça, c'est joli, c'est beau et tout. Mais dans 3-4 ans, elle va se tirer avec un plus beau. Et puis, toi, tu l'auras dans l'os. Enfin, j'étais réaliste à ce niveau-là. À tort ou à raison, j'en sais rien. Mais après, avec les filles, non, j'avais pas de problème. Non. À condition qu'elles ne soient pas plus grandes que moi.
Lycée Jacques de Cour, Paris 9e.
Moi, au niveau de l'adolescence et plus précisément de la puberté.
Elliot.
Bah, ça vient petit à petit, on va dire, mais c'est assez long chez moi, ça, j'ai pas encore fait ma phase de croissance. Donc c'est inégal, on va dire.
Par rapport à d'autres personnes, non, mais je suis grand.
Niels.
Et j'ai vite grandi, du coup, bon, ça m'a causé des problèmes physiques, juste, tout court, au niveau des articulations.
Il n'y a pas trop de problèmes, après je suis un peu plus petit par rapport aux autres, des fois ça peut créer un complexe, mais j'ai pas trop ça, parce que ça va, je suis quand même dans la moyenne.
Paul.
Mais c'est vrai que je pense à certaines personnes qui soit sont vraiment très grandes, soit sont vraiment très petites, ça peut être très compliqué pour eux, et ça peut être vraiment une grande gêne au quotidien. Et ça peut même être un sujet d'harcèlement, même s'il faut pas, en fait, c'est la vie qui décide. Et voilà, faut pas avoir de complexe par rapport à ça.
Moi j'ai toujours grandir, ça devrait arriver, j'espère, bientôt.
Zadig.
Bientôt les 1m70 aussi, ça fait plaisir.
Mais entre potes, des fois on peut peut-être se charrier sur un qui est vraiment grand et qui est vraiment petit. Mais, bon, c'est plus des blagues entre potes et vraiment on essaye d'être assez délicat quand même avec ça, parce que ça peut être un sujet assez problématique et... Des gens qui ont peur de ça.
Par exemple, en quatrième, moi, je me suis fait beaucoup moquer sur ma taille. Parce que j'étais le plus petit de ma classe. Mais ça s'est arrêté en quatrième quand je les ai dépassés. Mais voilà, c'est surtout grandir pour plus me faire moquer. Mais surtout parce que, je sais pas en fait, tout le monde veut être grand, musclé, fort. Je pense que c'est surtout un stéréotype du masculin.
En vrai, je suis content. Parce que j'ai envie d'avoir une moustache. Mais bon, ça pousse pas trop. Ma barbe, en vrai... Enfin, ma barbe. Mon petit duvet, il pousse un peu.
Clotaire.
Mais s'il m'intéresse pas trop, quoi, je le rase de temps en temps. Je vois un peu. Mais ma moustache, je la rase pas. Mais bon, elle pousse pas trop non plus. Et j'aimerais bien, j'ai hâte que ça pousse. Mais en vrai, j'aime bien. Là, ça fait, je pense, 5-6 mois que je commence un peu à voir où je dois me raser. Mon père, il a toujours été... J'ai même une photo la première fois où je me suis rasé. Il m'a expliqué une fois, et puis après... Bon, c'est pas très compliqué, hein. Et après, maintenant, je me rase tout seul. Je sais pas, ça dépend. Mais je pense une fois par mois. C'est pas non plus beaucoup, hein, mais voilà.
Alors moi, je suis esthéticienne depuis 37 ans.
Francine, esthéticienne à la BG Factory.
En abréviation, on dit BG Factory, mais c'est Beau Gosse Factory. En fin de compte, c'est ce qu'on pourrait appeler une usine à belles personnes. Voilà. C'est surtout, on prend de la base et puis on fait en sorte de continuer, en fin de compte, à préserver le capital de nos clients. Et de l'améliorer en même temps, suivant ce qu'ils ont envie qu'on améliore. Faut pas être guindé quand on fait ce métier-là, parce que sinon, ça passe pas. Allez, on y va gaiement, on va épiler tout ça, allez dans la bonne humeur. C'est pour ça que c'est important, enfin, de détendre l'atmosphère. Donc, le petit côté un petit peu coucougnette avec, vous savez, l'accent du sud, quand... eh ben, c'est très bien. Donc, et on rigole bien, vraiment. Mais l'homme, c'est extraordinaire de travailler avec. Rien à voir avec les femmes. C'est, ils attendent quelque chose de vous. Comme je vous dis, c'est un petit peu la maman. Ils attendent quelque chose, pas un miracle, mais quelque chose. Et donc, ils aiment le cocooning. Ils aiment aussi la manière dont on leur parle. Voilà, il faut les amener vraiment vers nous, quoi. Et moi, j'adore. En tout cas, franchement, si je devais demain retourner travailler avec les femmes, sincèrement, j'aurais beaucoup de mal. Vraiment.
Vous faites quoi comme soin aux hommes ?
Tout. C'est-à-dire, ça va des épilations, soins du visage, aux teintures, aux permanentes, en passant par le soin des mains, le soin des pieds, l'amincissement. Vraiment, tout ce qu'une femme peut faire, on peut le proposer aux hommes. Je dirais qu'il y a 30 ans, il y avait très peu d'instituts, voire pas, qui étaient cachés. L'homme avait tendance, en fin de compte, à avoir un peu honte. Et puis, c'était les anciennes générations. Donc, pour eux, avoir des poils, c'était pas rédhibitoire. Et puis, c'est vrai qu'en 15 ans, ça s'est démocratisé. Les femmes ont demandé à leur mari de devenir un petit peu plus beau, de prendre soin d'eux, d'utiliser des crèmes. Et puis maintenant, la génération de maintenant, c'est on ne veut pas prendre de poids, on lutte contre les rides, on va tout faire pour retarder le vieillissement. Il faut être impeccable parce que le monde du travail aussi demande à ce que les hommes soient impeccables. Même j'ai des personnes qui travaillent sur des chantiers qui font attention quand même à leurs mains, à leur corps, à leur visage, surtout ceux-là, parce qu'ils sont à l'extérieur. Et donc, du coup, ils n'ont pas envie d'avoir l'aspect de leur grand-père qui était plâtrier ou maçon dans des entreprises et qui faisait plus vieux que leur âge. Là, à l'heure actuelle, on nous demande de travailler de plus en plus. Il y a ça aussi, c'est le problème. Avant, un homme, 55 ans, on aurait dit un vieillard de 65. Maintenant, un homme de 55 ans, quand vous le regardez, bien souvent, il paraît plus jeune. Pourquoi ? Parce que aussi la société a évolué. On nous demande, les employeurs, ils ne veulent pas des grabataires. Ils veulent des personnes qui ont l'air quand même en forme et qui sont en forme et qui ont aussi une image de quelqu'un qui s'entretient, de quelqu'un qui est un petit peu plus jeune, qui ne fait pas son âge. Il y a quand même une pression sociale qui est derrière. Ici, vous avez la radiofréquence. Et puis ce soin-là, donc après, est situé, on met des bandes froides. Donc c'est une solution que je fais préparer en pharmacie. Je vais vous la faire sentir, vous allez me dire ce que vous reconnaissez.
Non, ouais, menthe poivrée un peu.
Non, alors ça me dit en fait, c'est du camphre et du menthol. Donc je fais cette préparation et donc on va mettre des bandes Velpo. Ces bandes Velpo, on va les serrer comme une momie. Il faut que le client arrive à tenir à peu près entre 20 et 30 minutes. Au départ, c'est très léger, mais au fur et à mesure, ça va dégager du froid. Et donc, ça leur provoque la chair de poule. Et en provoquant la chair de poule, je viens en même temps titiller tous les muscles érectiles qui sont au niveau des pores, au niveau du poil. Et donc, on arrive à raffermir. On donne un coup de boost. Après, aussi au client de faire ce qui est nécessaire derrière.
Ouais, je pense que je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là plutôt à faire dans...
Jean-Charles Masséra, artiste et écrivain.
Non pas faire en sorte qu'on soit regardé comme sont regardées les femmes ou avoir un corps, qu'on s'en s'occupe. Bon, même si depuis que j'ai arrêté le vélo, un des premiers trucs qui m'a posé problème, c'est est-ce que je continue à m'épiler ou pas ? Parce que j'aimais bien être épilé, j'aime pas la pilosité. Donc, en même temps, je peux pas dire ça. Si des femmes ont pas envie de s'épiler, ok. Mais en même temps, quand je me dis ça, oui, mais toi, là, Jean-Charles, en tant que mec, t'aimes pas trop avoir cette pilosité et t'aimerais bien continuer à t'épiler comme quand tu avais le prétexte du cyclisme de compétition au niveau interrégional. Là aussi, voilà, c'est une contradiction intéressante, quoi. Puis j'ai plus l'âge de faire du sport et le temps de faire du sport de haut niveau, donc... Voilà. Donc là, si je m'épile, c'est un parti pris. C'est pas, j'ai pas l'excuse de la compète de dimanche. Quoi. Mais voilà, à un moment donné, ça c'est un exemple basique. Mais c'est à quoi je me conforme. C'est pas, pourquoi j'aime pas cette pilosité chez les hommes. Alors que je suis prêt à dire, à défendre politiquement le fait que des femmes ne s'épilent pas. Parce qu'on est quand même victime de représentations majoritaires.
On va dire, on ne peut pas faire des jambes d'un homme extrêmement poilu qu'avec de la cire tiède. et cire à bande. Il y a plutôt un risque déjà de casser le poil. Et ensuite, bah, le pauvre, il va avoir très mal. Tout ce qui est maillot, obligatoirement, c'est de la chaude. C'est une multitude de petits plis donc sur les coucougnettes. Et du coup, si vous mettez de la cire jetable, c'est impossible. Mais si on met de la chaude, elle va bien venir, en fin de compte, galber un petit peu tout ce qui est petit pli. Et du coup, on va bien retirer le poil. Et toujours dans le bon sens, évidemment. Mais bon, j'apprends rien quand on est pile. Il faut toujours aller dans le sens du poil, le retirer dans le sens inverse. Il faut toujours bien tenir la peau. Il faut toujours, voilà, professionnel, quoi.
Ça y est, le tirage a eu lieu.
Terrain de pétanque, haricots, dans l'Aude.
Des blagues, il y en a, oui. Et des blagueurs aussi.
J'espère bien.
Ici, il y a de tout. Je vais vous donner un exemple d'une personne de 76 ans, donc qui ne connaissait pas du tout l'esthétique, hein, qui s'en fichait un petit peu, hein, royalement, hein, que ce soit avec sa femme ou ses amis, ils en parlaient, ils s'en fichaient. Et puis un jour, il a eu un concours de pétanque et il a perdu. Et donc, son gage, c'était de se faire épiler l'intime. Et donc, il y a été. Il est venu, je l'ai eu, on a bien rigolé. Donc cette personne, ben, est repartie, elle était contente. Voilà. Et c'est une personne que j'ai revue par la suite. Et en plus, on a prouvé à ses amis qu'il avait bien réussi, en fin de compte, son gage.
Et celle-là, elle est. Attends.
On va la mesurer.
Et ne commencez pas à chicaner parce que je vous prends tous les deux. Hein. Faut voir un peu. C'est va.
Alors, je suis confus pour les esthètes, hein, mais je vais devoir lever le mensonge. Ceci est bien une pipe, de la même manière, ceci est bien une verge. Donc là, il y a des diapos. Hein. Nous la considérons dans son état principal, à savoir la flaccidité du repos, que d'autres nomment bite molle ou saucisse triste. Nouvelles images. Ce point de départ est important, car toute la folie de la puissance supposée du mâle part de cette confusion. Un sexe ne connaît de réelles érections propices à l'éjaculation que de la puberté jusqu'à l'andropause, en moyenne 7 fois par jour, dont 5 fois pendant le sommeil, et ce pour une durée de 2 à 10 minutes les jours de miracle. Après quoi la verge retrouve son modeste état de limace. Si on fait le bilan, la puissance érectile sur laquelle se fonde la névrose du pouvoir masculin ne se produit que 1,041% du temps à échelle d'existence. Et tout d'un coup, on comprend bien le vertige.
Michael Delis, comédien, auteur et metteur en scène.
C'est encore des mécanismes et des leviers qui sont encore trop réducteurs dans la mesure où on se dit que soit c'est dur, soit il se passe rien. En dehors de l'érection, c'est le continent du désespoir, alors qu'en réalité, un sexe est mou 99% de sa vie, que même ce mot de mou, il est étrange, en fait, on pourrait dire qu'il est tendre, qu'il est moelleux, qu'il est doux. Mais comme on a tout indexé sur cette érection et cet étalon de la puissance, la représentation, elle est complètement biaisée. Le vocabulaire est quand même dingue. Le repos nous est confisqué. Nous, on est dur, droit, actif, et on ne peut pas se reposer. En tout cas, c'est la logique qui est... Vu que le repos est honteux. Et ce qui va avec cette logique de la performance, qu'elle soit sexuelle ou aussi sociale, sociétale, c'est qu'on doit être actif, suractif, hyperactif, faire. Et alors, on peut faire des heures de vocabulaire sur le langage sexuel qui est de perforer, pilonner, mitrailler. C'est un langage hyper martial. La trique, c'est avant tout quelque chose pour taper, le gourdin. Enfin, toute la métaphore sexuelle pour nommer le sexe masculin, c'est l'arme qui va décharger quand même en rafale. On est quand même sur un truc où, là encore, si on veut renchanter le langage et le rapport au corps et au sexe et à la verge, il y a des continents, hein. Il y a tout à fait. Hein.
Bon, ben, c'est Gérard, en fait, il s'est fait... comment... Je sais pas comment expliquer, en fait, c'est trop énorme. En fait, il a changé...
Bon, ferme-la. On abrège. Voilà. Je me suis fait installer une bite électronique. Super l'effet de l'annonce, là. Putain, ça tombe complètement à plat.
C'est quoi l'intérêt, du coup, je comprends pas?
Bah, parce que ça se pilote.
Bah oui, parce que ça se pilote. Une vraie bite, ça se pilote pas, en fait.
Mais et donc, tu
fais quoi de plus avec ?
Oh, bah attends, elle est télescopique, je peux changer de taille. Je peux l'avoir très dure, un peu dure, mou, moins mou. Puis il y a des fonctions super marrantes, hein. Je peux la faire vibrer sur 3 vitesses. Enfin, ça c'est surtout cool pour ma chérie.
Non mais c'est dingue votre truc là. Pardon, hein, les gars, on n'était pas préparés.
Non mais surtout, alors, je te le dis à toi parce que t'es plus tout jeune. Pardon, mais c'est vrai. Le machin là, ça bande 24 sur 24, 7 jours sur 7. Bam, ça bande sur commande. Et tu dis rien au bureau, hein, parce que des trucs comme ça, ça peut créer des jalousies.
Effectivement, traiter de la question des masculinités et pas aborder la question de l'érection, qui est une question qui fâche à tous les étages.
Dès de Cabale.
Pour moi, c'est vraiment
rappeur,
travailler à côté du sujet.
Auteur du spectacle.
Parce que
Fêlure ou le silence des hommes.
La question qui vient à côté, c'est la question de tous ces hommes qui peuvent avoir des rapports sans en avoir vraiment envie et qui ont des érections. Donc aujourd'hui, c'est moins un secret. On sait que les érections ne sont pas que motivées par le désir. Mais c'est central. Central parce que ma masculinité à moi s'est construite autour de ça. Bandé. C'est un problème. Et moi, j'ai tenu dans Fêlure du silence des hommes, je voulais vraiment parler de cette question-là, c'était super important. Parce que je trouve que c'est une question qui est vraiment, vraiment évitée, en fait. Parce que là, on est dans l'imaginaire fantasmé de ce qu'on veut produire. Surtout, nous, on a fait des séances de travail sur qu'est-ce qu'on met dans notre tête quand on veut avoir une érection, en fait. Et là, on ne l'écrit pas, on n'en parle pas, on ne fait pas de film dessus, c'est pas tout de suite, quoi. Parce que ça, c'est terrifiant.
Dans la pornographie qui est la plus accessible en tout cas, dans les premiers résultats souvent sur les plateformes numériques, l'acteur va être plutôt réduit à son pénis, à sa fonction de pénétrateur ou de pilonneur de corps féminin. Voilà.
Florian Voros, sociologue.
Après, si on va regarder à d'autres endroits dans la pornographie, la culture gay en général et la culture du porno gay en général fonctionnent très par typologie de corps. Donc on aura les berces, les oursons quoi, ou les ours, c'est-à-dire des corps plus avec plus de gras, plus de poils, qui sont à vrai dire assez peu représentés dans la pornographie mainstream, qui est souvent plus construit autour d'un idéal d'athléticité et de corps plutôt musclés et plutôt secs. Mais donc voilà, il y a les berces, les oursons, il y a les twinks, donc les minets, ces jeunes hommes glabres, fins, conventionnellement associés à la féminité, voire à la réceptivité sexuelle. Après, ce qui était le plus valorisé, le plus recherché par les hommes gays bisexuels que j'ai rencontrés, c'était la masculinité brute. Le mot brut, c'est un mot qui revenait beaucoup. Il peut y avoir dans cette valorisation, dans ce fantasme-là, parfois un peu une exclusion aussi du féminin, avec l'idée que voilà, ce qu'on veut, c'est pas des hommes gays féminins, mais c'est des hommes bruts, voire même des hommes hétéros. Alors aussi, dans les fantasmes racontés par les hommes gays, le fait d'imaginer du coup les hommes dont ils fantasmaient comme hétéros, ça pouvait rajouter en tout cas de l'excitation. Aussi le fait de les imaginer comme arabes et noirs pouvait rajouter aussi de l'excitation.
Spécial site de rencontre et fétichisation raciale des extraits de phrases à la con que je reçois sur Grindr comme tant d'autres, comme les personnes dites racisées, les noirs, les arabes. On commence avec une phrase reçue l'année dernière.
Performance sur la chaîne YouTube.
En guise de bonjour.
De Lara Zbay, enseignant-chercheur.
T'es intelligent pour un arabe. T'es marocain, t'es rebeu, t'es libanais, tu dois être libanais toi, ils sont chauds les libanais, avec la guerre ils doivent être sous les nerfs. C'est toi que j'ai croisé au hammam. Tu veux castrer un petit blanc de sous-race inférieure. Moi je kiffe les rebeux en survêt. T'es intelligent pour un arabe. Pour un arabe, t'es intelligent.
Alors, je vais peut-être faire un petit détour historique. Le 19e siècle, c'est un moment charnière dans l'histoire des masculinités, où, dans les modèles de masculinité dirigeante qui sont promus, il y a l'autodiscipline, et l'autocontrôle qui sont présentés comme une propriété des hommes dirigeants, des hommes bourgeois, éventuellement parfois des hommes blancs aussi, si cette approche des choses est racialisée. Et du coup, il y a le contre-modèle, en fait, de l'homme noir, du sauvage avec des grandes guillemets, ou de l'homme de classe populaire, qui seraient voilà, des contre-modèles d'hommes qui seraient dans une virilité débordante, excessive, voilà, qui n'arriveraient pas à se contrôler. Alors à la fois, ce qu'on hérite en fait de ce schéma du 19e siècle dont on n'est pas encore sorti, c'est qu'à la fois une fascination souvent pour ces masculinités altérisées dans le discours politique, médiatique, voilà, européen, le plus largement diffusé sur les masculinités noires, arabes ou sur les masculinités ouvrières, c'est qu'à la fois voilà, une fascination pour ces masculinités prétendues autres. Et qui sont imaginés d'un point de vue blanc comme étant plus proches de l'état de nature et donc plus fortement virils, avec l'idée aussi que l'industrialisation, la modernité auraient amené un éloignement des hommes par rapport à leur virilité naturelle. Donc parfois il y a une sorte de fascination, mais de fascination très, très enfermante en fait. Ça du coup c'est aussi très présent en fait dans les pratiques pornographiques, dans les pratiques masturbatoires, parce que la pornographie va beaucoup jouer sur cet imaginaire. Dans la, les hommes dans la pornographie, les fantasmes de virilité c'est quand même beaucoup plus des fantasmes d'ouvriers, d'hommes noirs, d'hommes arabes, dans le porno gay, mais je dirais même dans le porno hétéro d'une certaine manière. C'est-à-dire que souvent, dans le porno, la classe sociale est une manière d'exacerber la virilité.
Viens pas mettre le nez dans mes affaires. Mon rap prend de la protéine, soulève là les haltères. Je fais des dons d'urine pour que la France entière se désaltère. L'Afrique c'est la terre, à leur santé je déblatère. C'est pour les enfants terribles qui ne font aucun effort. Au parcours comme une queue de négro, long et pénible. Que le prochain fils de lâche qui veut me clash vienne me le dire en face. P2OP, armes, drogue et cash, personne ne le remplace. Je veux pas rivaliser, on va te dévaliser. Te déraciner, te décalciner, ok, ok.
Alors la masculinité du rappeur Booba, elle est vraiment construite depuis le début comme une masculinité de protestation postcoloniale, selon moi, avec un retournement de stigmate rattaché aux jeunes des banlieues au début des années 2000 et plus largement aux indigènes durant la période coloniale.
Clara Eich de Laborde, doctorante en sociologie.
Du coup, Booba, il va beaucoup mobiliser l'image caricaturale de l'homme noir à la sexualité débordante, incontrôlable, qui aurait un regard génital démesuré, pour en faire un signe de puissance. Cette analyse-là, elle est facile à faire, puisque le lien entre le retournement de stigmate et la masculinité est très clair dans les paroles de Booba. Pour le citer, par exemple, dans numéro 10, il dit « Les talons noirs kiffent les chaînes au string talons ». Dans Duc de Boulogne, donc en 2006, un parcours comme une queue de négro, long et pénible. Game Over en 2008, j'ai toujours envie de baiser comme un singe bonobo. Donc là, c'est très clair qu'on a une réappropriation de ces stigmates-là, voilà, qui sont des stigmates racistes, et qu'il va revendiquer. Bah, il y a une forme de pied de nez aussi. Enfin, il joue et c'est conscient. Enfin, je pense que c'est réflexif. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Après, le jugement moral lié à ce type de discours, il appartient à chacun, à chacune, évidemment. Mais c'est, il décrit très bien Booba, il représente très bien toute la complexité de ce que peut être la représentation d'une masculinité altérisée aujourd'hui, quoi.
La chercheuse qui a inventé le concept de masculinité hégémonique, Rewin Connell, une chercheuse australienne, elle l'a fait en l'articulant en fait avec d'autres formes de masculinité, des masculinités subalternes, marginalisées, des masculinités qu'elle appellerait plus complices. Et la masculinité hégémonique, en fait,
Désir le tourneur, faut essayiste.
Pas la voir comme aujourd'hui, ce serait forcément être un homme musclé et sportif, et c'est ça la masculinité hégémonique. C'est plus une position dans laquelle beaucoup d'hommes peuvent se retrouver à un moment ou à un autre, selon leur environnement et leur milieu. Si vous êtes sur le terrain de foot, eh ben la masculinité hégémonique, elle va ressembler à être un mec sportif, musclé, mais c'est pas non plus un bodybuilder, parce que lui, il a besoin surtout de courir vite. C'est avoir une intelligence du jeu, etc. ces qualités-là, ce ne seront pas les mêmes qui vont représenter la masculinité hégémonique au moment où vous êtes à l'Assemblée nationale. Où là, c'est beaucoup plus permis d'avoir de l'embonpoint. Si vous êtes chauve, c'est pas grave, c'est plutôt la norme. Là, on a plus des formes de masculinité qui vont s'imposer et marquer leur supériorité par leur éloquence et leur capacité à jouer le jeu politique. Il en va de même, en fait, pour la cour d'école, pour l'usine, pour tous les différents milieux qu'on peut être amené à fréquenter. Il y a vraiment, dans ce concept de parler de masculinité au pluriel, de masculinité hégémonique ou subalterne ou complice, cette notion de positionnalité qui est super importante.
Ce qui a fait beaucoup de bien pour les gens qui ont des problèmes de calvitie, ça a été la Coupe du Monde en 98. Hein. Ils ont aidé les hommes à s'accepter, à ne pas avoir de cheveux.
Hein. On va en parler, c'est un sujet sensible.
Le côté positif, ça a été pour les gens qui avaient du mal à s'assumer avec leur manque de cheveux. Ils étaient plus passe-partout, on va dire.
Bon, après, il y en a qui n'acceptent pas quand même.
Ah, il y en a qui ont du mal, hein.
Ouais. J'ai quelques amis qui ont du mal encore à passer.
Ouais.
Ça, les teintures là, pour, sur le crâne là, pour masquer un peu.
Ouais, le manque, ouais. Ceux qui ont du mal, c'est direction la Turquie. Pour faire les implants.
Ouais. Autant pas avoir de cheveux.
Et bien, contrairement à ce que tu crois, j'étais vachement surpris. Hein. J'ai coiffé le fils d'un client qui était venu passer Noël chez ses parents l'année dernière. Et il est allé en Turquie se faire implanter des cheveux. Et bien, là, j'ai dit chapeau. Parce que le travail est franchement super bien fait. Et il avait une touffe de cheveux, le gars, comme nous. Lui, ils lui ont pris des cheveux de partout. Qu'ils ont replanté là, sur le dessus. Parce qu'ils enlèvent là, ils arrachent le bulbe pour le replanter, hein, je dis pas. Ça va faire super mal. Il a la tête qui s'est mise à gonfler. Ouais, le pauvre, il avait. Mais il faut vraiment avoir envie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à faire le dessus, par exemple, les tempes, en général, ça commence par les tempes, hein, la calvitie. Ça creuse au niveau des tempes, après, ça creuse sur le dessus de la tête. Et après, ça se rejoint.
Arrête de me regarder, s'il te plaît.
Mais, mais pas du tout.
Il commence à m'agacer.
Et il faut savoir que si vous commencez à en faire sur le sur les tempes, mais il faut penser que dans 10 ans, il faudra faire le dessus. Quoi. Parce que ceux qu'on vous a implantés, eux, ils s'en vont pas. Hein. Mais les autres, par contre, ils s'en vont. Hein. Donc sur du long terme, si on n'a plus les moyens de continuer les greffes au bout de 10 ou 15 ans, ben vous retrouvez avec deux touffettes au niveau des tempes. Esthétiquement, c'est moyen, quoi. Mais ça, ils le précisent pas quand ils le font.
Oh
À plus de 80 ans, vous jouez toujours?
Je joue toujours, je galope comme la paix. J'ai plus de ménisque depuis l'âge de 30 ans. Et j'ai les ligaments antérieurs, là, je ne sais pas comment on les appelle, derrière, là, qui sont nécrosés. Alors bien bandés en haut et en bas. Et quand même, tous les 2-3 ans, avec une, ou 3-4 ans, avec une infiltration hyaluronique, je galope comme un lapin, j'ai pas de problème. Donc c'est l'amour du foot. Alors là, le mardi, on joue comme dans la cour de l'école, si vous voulez. On joue sur un demi-terrain. Et quelquefois, vous avez le grand-père qui amène son petit-fils. Tout le monde est accepté. Alors le plus vieux du groupe a 87 ans, il joue gardien de but. Et vous avez de tout. Vous avez les types qui font pas de passe à un tel, je sais pas pourquoi. Celui qui vous balance une bombe à 5 mètres, quitte à vous envoyer le pauvre gardien de but à l'hôpital, ça, j'arrive jamais à comprendre ce garçon. Il y a tous les caractères. Vous en avez qui se bagarrent quelquefois, c'est arrivé. C'est qu'à chaque fois qu'il y en a deux qui se bagarrent, moi je me régale. ça me fait un petit combat, je sais qu'ils ne vont pas se tuer. Et quand ils se sont mis quelques bonnes châtaignes, on les sépare. Et tout le monde est content, et le mardi suivant, ils sont copains de nous. En général, ceux-là, dans les 55 ans par là, les vieux ne se bagarrent pas, ils ont peur, et les jeunes, ils sont trop fragiles. Et, mais ces petits combats de boxe, ça amène un peu de vie. Enfin, moi, je me régale.
Oh, les gars, stop, stop! Oh, les gars, non! Oh, le 4! Oh, le 4! Qu'est-ce que tu fais?
Écartez-vous, les gars!
Yoli, sortez de là!
Ah non!
Regardez-vous!
Il y a un problème de carton, là.
On continue, les gars, allez, on continue.
Vous avez des joueurs qui viennent, j'en ai connu deux, qui étaient très forts, très très forts, mais vraiment qui étaient très forts, et qui petit à petit se sont affaiblis avec la maladie d'Alzheimer. Et dès l'instant où ils ne couraient plus, où ils avaient des difficultés à contrôler, on ne leur donnait plus le ballon quasiment. Ou on les engueulait un peu parce qu'ils n'allaient pas assez vite sur un ballon qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Et c'est là que moi je me mettais à côté, que je faisais vraiment le geste de l'amitié. Et le type était content, il me l'a redonné, voilà, il avait touché le ballon. Pour moi, voilà, j'ai entraîné aussi. Et je me souviens avoir dit à mes joueurs que la passe, c'était pas seulement un geste technique, c'était un geste d'amitié. Quand on fait une passe à quelqu'un, on lui montre qu'on a de l'estime pour lui. Enfin, moi, c'est mon cas. Même s'il n'est pas bon. Et je me dis que sans le foot, je ne sais pas comment ça va se passer. L'autre jour, j'ai mal joué, très mal joué. Pas ce mardi, le mardi d'avant, et j'ai dit à mes copains, si je fais 3 matchs comme aujourd'hui, j'arrête le foot. Bon, mais mardi dernier, je me suis requinqué, ça va. J'en ai encore pour un moment. Si, le foot me prolonge.
J'écoute ce que maman dit, oh mon prêt pour pas regretter. Quand le mal est fait, je peux pas revenir en arrière. Ma mère et maman, on fait la paire. Fiston, méfie-toi des potos, c'est les potos. Ça va, ça vient, surtout quand y'a le fric au milieu. Tu verras à combien ça tient. Arrête de battre, arrête la fume. Tu vas perdre la vie ou perdre la vue. Ici, balle, le temps passe vite. T'auras 30 piges, après ta clope. Les jours moroses, regarde là-haut. Tu verras, papa, on s'est compris. Œil pour œil, si c'est ton prix. Dépose une somme, on s'est compris. Maman, c'est vieille, ouvre grand tes bras. Faire ce qu'il faut faire. Faire ce qu'on dit, si on veut, c'est qu'on peut. Et quand on peut, on doit. Quand on m'arrête, si je vais trop vite. Quand on m'arrête, pour ma troupe. Quand on veut, je crois qu'on peut. Et quand on peut, fiston, on doit.
Bon, ça va mieux?
Ah, ça va mieux.
Être un bonhomme, épisode 1, donner forme aux hommes. Une série documentaire de Romain Domecq de Lièvre, réalisée par David Jacubovies.
Avec, je mets un peu de lunettes? Non, naturellement.
Ouais. Avec Daisy Le Tourneur, Luz, Guillaume Vallet, Audrey Voile, Jean-Charles Masséra,
voilà.
Michael Delis, Florian Voros, D de Cabal et Clara Eich de Laborde. Merci à Pierrick de chez Pierrick Coiffure, à la Bastide d'Anjou, à toute l'équipe du FC Mass Sainte-Puelle dans l'Aude, à la Bogos Factory à Paris et à Francine, à Bruno et à l'association La Boule Ricaudoise. Merci également à Claire Le Ninan, documentaliste au CDI du lycée Jacques Decoux. Prise de son, Yann Frécy, Jeffrey Marianne, Noé Chaban, Jean-Guilain Meige et Marie-Claire Oumabadi.
Et voilà, fin de journée.
Mixage, Mathieu Tourin.
Un petit 20 minutes de nettoyage et c'est bon.
Documentation, Annelise Signoret. Documentation musicale, Pierre Plantin et Loïc Delacour. Coordination, Johanna Bedeau. Chargée de programme, Marie-Yvonne Abolivier et Anaïs Morales. À suivre, Être un bonhomme, épisode 2, Les cordes sensibles.